La cancel culture, c'est sur toutes les lèvres depuis quelques mois, voire quelques années. Phénomène dont on entendait à peu près parler. Hein? Pensez-y, là, il y a quelques années, on n'entendait pas parler de ça. On en parle tellement qu'il s'écrit plusieurs essais à ce sujet dans les derniers mois. Des essais que j'ai lus en passant. J'en ai lu, je pense, trois à ce sujet. Le troisième que j'ai lu, c'est celui de Judith Lucier, qui est journaliste, autrice, militante. Ça s'appelle « Annulé ». Et c'est un essai qui m'a beaucoup plu par sa rigueur journalistique, mais avec lequel, évidemment, je pense que de toute façon, c'est toujours sain quand on n'est pas en accord avec tout, avec lequel j'ai des questions, sur lequel j'ai des questions, et je suis très heureux de l'avoir au bout du fil. Allô, Judith?
Bonjour, Jean-Simon.
Merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, dans tes mots, comment tu définirais ça, la cancel culture?
Ben, c'est un phénomène qui est à la fois difficile à cerner, hein, parce que ça implique plusieurs exemples vraiment différents. Ça va des personnes qui sont bannies de l'espace public après avoir été dénoncées pour des agressions sexuelles, aux mots qu'on peut plus dire à l'université, à certaines personnes qui perdent leur emploi pour toutes sortes de raisons qui sont plus en cohérence avec, mettons, la pensée dominante. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est dur de cerner les conséquences réelle de tout ça. Est-ce qu'on parle de censure? Est-ce qu'on parle de critique légitime? Est-ce qu'on parle... c'est ça que j'ai essayé de démêler un peu dans mon essai. Puis c'est pas évident parce que effectivement, les exemples sont vraiment disparates.
Oui, puis on réalise quelque chose, notamment, tu parles de cas dans l'actualité. Ce qu'on réalise, puis ça, je pense qu'on est d'accord à 100% là-dessus, souvent, les histoires de cancel culture, c'est des tempêtes médiatiques dans un verre d'eau. Là. On pense au Monsieur Patate Gate, là, comme je l'appelle affectueusement. Ouais. Ça, la façon que le titre était propagé, la façon que certains chroniqueurs l'écrivaient, on voulait carrément brûler des Monsieur Patates, ce qui n'était pas du tout le cas. L'indignation, non. Ça pogne, hein, Judith, que ce soit à gauche ou à droite.
Oui, on veut pointer du doigt hein, les woke qui seraient les principaux responsables de la cancel culture, mais en fait, ce qu'on réalise, c'est que ce qui est vraiment à l'origine de tout ça, c'est notre indignation sur les réseaux sociaux. Puis ça, les réseaux sociaux ont rapidement compris que l'indignation, c'est l'espèce de carburant là qui fait qui garde notre attention le plus longtemps possible sur leur plateforme. Puis c'est ça qu'ils désirent. Hein. Plus ils ont notre attention longtemps sur leur plateforme, plus ils vendent de la publicité, plus ils génèrent de profits. Et on comprend de plus en plus que notre santé mentale ou on dit souvent qu'on est très polarisé ces temps-ci. Ben ça, les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux s'en balancent un peu. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire des profits. Puis ben se chicaner sur Internet, pour eux, c'est très profitable.
Autrement dit, s'ostiner sur la cancel culture, c'est payant pour Facebook et compagnie, là.
Absolument, absolument.
J'aimerais qu'on parle d'un cas avec toi parce que tu le glisses dans ton ouvrage, le cas des Stratis. En lien avec la cancel culture. Tu parles notamment à Josiane Stratis dans ton ouvrage. Tu parles de son cas où est-ce qu'elle fait face à une vindicte populaire suite à des allégations de harcèlement psychologique. Et tu notes avec justesse que, bon, c'est peut-être allé très, très loin. Je te fais part d'un autre point de vue que j'ai lu dans le livre de Simon Jodoin qui s'intitule « Qui vivra par le like, périra par le like ». Josiane Stratis écrit ceci dans une tempête qui touche Simon Jodoin en été 2020. Est-ce qu'à un moment donné, on va aussi dire à Simon Jodoin qui l'a soutenu et aidé des violeurs et des hommes dangereux avec le voir, genre, il peut-tu être reconnu accountable, qui a encore peur de cette vieille guenille-là? T'as pas l'impression des fois, Judith, que les gens qui sont visés par de l'annulation ou par des attaques qui les font disparaître des réseaux sociaux, c'est des gens qui eux-mêmes ont un peu vécu par l'épée?
Ça se peut très bien parce que je pense qu'on s'en rend pas compte, mais on devient tous à un moment ou un autre émotifs sur les réseaux sociaux. Puis je serais assez d'accord pour dire que les sœurs Stratis, si les gens les connaissent pas, les sœurs Stratis, c'est les filles qui étaient à l'origine des blogs
Mon petit look.
Ou TPL Mom. C'était des blogs très populaires. Puis effectivement, ils ont fait partie ils ont fait partie de la mêlée hein, quand il y a eu des vagues de dénonciations. Elles encourageaient les dénonciations d'agressions sexuelles. Ça a toujours été des blogs très des blogueuses très progressistes. Effectivement, après ça, est-ce que ça se peut que ces filles-là manquer de délicatesse dans leur façon de dénoncer certaines choses. Absolument. Et puis je me mets dans ce lot-là. Puis moi, je me suis beaucoup questionnée aussi sur ma façon d'aborder ces enjeux-là sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que des fois, on veut faire des critiques sociales, mais bon, on se laisse emporter par l'émotion. Puis c'est plus tant une critique qu'une dilapidation. Puis on rentre dans le tas. Des fois, c'est juste, on veut juste faire des jokes. On veut juste prendre part à une espèce de surenchère humoristique, là, même des fois par les mimes, on peut participer à une forme de harcèlement.
Mais oui.
Tu sais, j'imagine que si vous faites l'objet de plusieurs mimes sur Internet, à un moment donné, vous en avez votre claque, tu sais. Fait que je peux comprendre qu'en tout, ça peut former du harcèlement. Donc, oui, moi, je me suis beaucoup questionnée sur ma façon d'aborder les enjeux sur les réseaux sociaux, puis je pense qu'on devrait tous le faire, hein. Je pense qu'on se regarde jamais aller. On est bon pour pointer du doigt quelqu'un qui se comporte mal sur les réseaux sociaux, mais on réalise pas que deux semaines plus tard, on peut faire la même affaire, mais viser une autre personne. Puis, cela dit, j'ai beaucoup d'empathie pour nous parce que ça fait seulement 10 ans que les réseaux sociaux sont vraiment dans nos vies, là. Puis, ça serait normal qu'on se comporte un peu comme des adolescents qui savent pas trop s'y prendre, tu sais, on est maladroit, des fois on est trop émotif, puis c'est ça qui arrive, on prend part à des espèces moi j'appelle ça le dogpiling, ouais. C'est un phénomène que je décris dans le livre où on se met à plusieurs sur une personne et on se rend pas compte de la portée que ça peut avoir pour cette personne-là.
Ah non, c'est de l'escalade. Puis je sais que tu t'es déjà exprimé un peu sur le sujet, mais moi je suis plus de l'école que les débats sur les réseaux sociaux, ça donne rarement quelque chose de bon. Là, des fois, ça met en relief tes enjeux réels, mais tu sais, la règle du troisième commentaire qui dégénère tout le temps, c'est tout le temps ça. Hey, je te donne un exemple ridicule. À un moment donné, je mets une photo de mon chien sur Facebook, OK, là. Mon chien, OK, il est là. Puis il y a quelqu'un qui dit en joke, un auditeur super fidèle, qui le trouve lettre, OK, en joke. Bon, fait que moi, je réponds, ben voyons, tu me fais de la peine, nanana. Et là, je te mens pas, là, il y a une armée d'auditrices que j'aime beaucoup, là, mais qui sont mis à attaquer mon auditeur en disant que c'était monstrueux.
Pour te défendre.
Oui, pour me défendre. Oui. Puis là, ils se sont mis à faire du dogpiling, comme t'appelles, puis à dire à quel point il était un monstre, de dire que Socrate était pas beau, puis que c'était un beau chien, puis que c'était le chien de ma famille. Fait que tu sais, je te dis, sur les réseaux sociaux, on se retrouve tellement à tout amplifier que le dialogue impossible.
Oui, puis on perd certains niveaux aussi de nuances, des fois, dans justement, on sait pas exactement c'est quoi l'intention de cet homme-là, on comprend pas le ton, on comprend pas le niveau.
Exact.
Donc, on perd un peu de cette... C'est des éléments qu'on a quand on est face à face, qu'on s'exprime. Puis il y a ça aussi, hein, la distance que créent les réseaux sociaux nous donne l'impression que des fois, on s'adresse à quelqu'un, on lui dit des choses pas mal moins polies que ce qu'on serait capable de lui dire dans la vraie vie. Cela dit, en même temps, tu seras d'accord avec moi, Jean-Simon, que les réseaux sociaux nous ont permis de mettre à l'avant des enjeux super importants dans les dernières années, comme Black Lives Matter ou comme le mouvement MeToo. Et c'est ça, c'est comme le revers de cette médaille-là, c'est que ben des fois les réseaux sociaux, on mesure pas toujours leur portée, puis ça fait c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. On a des très belles répercussions de ça, puis en même temps, mais c'est un petit peu complexe à gérer.
Absolument. Puis le problème, c'est ce qu'on voit, je trouve, beaucoup sur les réseaux sociaux. Dis-moi ce que t'en penses. D'une part, t'as une droite réactionnaire qui traite à peu près tout ce qui bouge de communiste. Puis de l'autre bord, t'as une gauche en bourgeois le vert qui traite des gens de racistes, d'homophobes, de fascistes. T'as pas l'impression, en tout cas, moi, c'est mon impression à moi, parce que, tu sais, je parle aux gens tous les jours, là. J'ai l'impression que monsieur, madame, tout le monde est laissé un peu derrière, parce que c'est pas vrai que monsieur, madame, tout le monde regarde son voisin et dit ça, c'est un communiste, ben non, ça, c'est un fasciste. Tu sais, les gens, en général, Judith, dans ces beaux grands débats-là, qui virent en insultes parfois, ils se positionnent où?
Mais c'est difficile parce que justement, les réseaux sociaux sont pas faits pour la nuance. Hein. Quand on traite quelqu'un de raciste, qu'est-ce qu'on veut dire dans le fond? Est-ce qu'on est capable de dire en plus de mots qu'est-ce qui peut être dérangeant dans son comportement ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en vient à cette conclusion-là que ce serait raciste? Je dis ça pour le racisme, mais pour le sexisme, la même affaire. Je veux dire, dans les dernières années, je me suis beaucoup, beaucoup exprimée sur les réseaux sociaux, puis de moins en moins, justement, avec les années, je pense que je me tourne justement plus vers les essais, vers les livres, parce que pour moi, c'est c'est un endroit plus propice pour avancer des idées plus complexes, plus nuancées. Je pense pas qu'il faut avoir cette attente-là là, que les réseaux sociaux vont nous permettre d'échanger vraiment des idées. T'sais. Après ça, peut-être qu'on va s'améliorer. Peut-être que avec l'expérience, on va plus faire la part des choses. Tu sais, quand on regarde, par exemple, notre rapport à la télévision, il y a 50 ans, on pensait que le personnage de Donalda existait vraiment, puis elle recevait des plats parce qu'on se disait pauvre madame. Mais là, aujourd'hui, on est un peu là-dedans avec les réseaux sociaux. Tu sais, on mesure pas exactement encore, tu sais, c'est-tu réel, c'est pas réel, les émotions que je vis à travers ça, c'est vrai. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'on est en train d'apprivoiser ce médium-là, puis qu'on va s'améliorer, là, j'ai beaucoup d'espoir.
Ah, ben, je te le souhaite, je suis plus cynique un peu, personnellement, mais bon, ça, c'est ma caractéristique principale, être cynique. Mais parce qu'il y a un psychiatre qui m'a déjà dit, un psychiatre que je connais, les médias sociaux, c'est comme si on voyait les pensées en temps réel de tout le monde. Puis il dit, le cerveau humain, il est pas fait pour savoir ce que ton voisin pense tout le temps. Tu sais, des fois, on a toutes des pensées méchantes, Judith, là, quand on passe dans la rue, qu'on voit quelqu'un qui confile pas, tu sais. On le dit pas, tu sais, on crie pas une insulte à quelqu'un. Mais les réseaux sociaux, on dirait que c'est exactement comme si nos pensées méchantes, on les véhiculait. Puis le problème, c'est que trop souvent, je trouve qu'on lit pour conforter nos idées plutôt que les confronter. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que les gens de gauche progressistes vont lire Judith Lucier, les gens de droite conservateurs vont lire Guy Nantel, puis vont dire Guy Nantel a raison, puis les autres de l'autre bord vont dire Judith Lucier. Tu sais, on n'est pas un peu dans ce dialogue de sourds.
J'invite les conservateurs à me lire s'ils prétendent vraiment qu'ils veulent ouvrir le dialogue. Moi, je l'ai lu Guy Nantel, alors je peux dire que je suis dans l'ouverture, je suis dans l'accueil, pas toujours d'accord.
Non, mais ça, c'est correct, tu sais, puis c'est correct de pas toujours être d'accord. C'est ça qui est important, j'ai l'impression. Mais tu sais, on a tendance, puis tu en as parlé avec les réseaux sociaux, à tellement se polariser à cause de ça. Mm-hmm. Fait que là, tout le monde s'attaque. Puis tu le démontres bien dans le livre. Ça c'est définitif qu'il y a autant des tenants de la droite qui ont essayé d'annuler des progressistes versus des tenants de la gauche qui ont essayé d'annuler des gens plus conservateurs. T'as raison aussi de dire, puis ça, je le répète souvent, mais les gens qui disent on peut plus rien dire, c'est souvent ceux qui parlent le plus à TV. Bon, ça on est d'accord là-dessus. Par contre, ça c'est une affaire sur laquelle je m'inscris un peu en faux. Tu sais, tu parles du cas de Concordia à un moment donné, des étudiants à Concordia, une histoire épouvantable là, en lien avec une traduction d'un titre avec le mot en haine, tout ça, puis les étudiants vivent un traumatisme, puis tu dis, bon, ce que les étudiants aujourd'hui à Concordia font, il y a un héritage derrière ça. Je trouve que des fois, on suranalyse ce que les militants font. T'sais, honnêtement, des fois, là, les gens, par exemple, là, à droite puis conservateurs, ils n'ont pas tout le temps une réflexion aboutie sur le nationalisme puis l'immigration. Ça se peut-tu aussi que des fois, les militants de gauche, là, ils sont juste là dans le premier niveau, puis il n'y a pas non plus une grande réflexion poussée sur le passé, l'histoire, pourquoi j'agis?
Ah, ça se peut. C'est sûr que les militants qui sont mis de l'avant dans ces histoires-là, c'est pas toujours les plus nuancés non plus. Puis ça se peut très bien qu'il y en ait qui vont vraiment trop loin. Cela dit, quand je pense à l'histoire de Concordia, je trouve qu'on la sursimplifie beaucoup. Parce qu'on oublie, tu sais, on méprise un peu ces étudiants-là en disant vous connaissez pas l'essai de Pierre Vallière, vous savez pas de quoi vous parlez, parce que c'est de cet essai-là dont il est question avec le fameux mot en haine. Mais en même temps, quand je parle à plusieurs Québécois, peu de gens connaissent l'histoire des émeutes de Concordia qui ont mis en lumière le racisme dans cette université-là dans les années 60, où il y avait plusieurs étudiants caribéens qui se plaignaient du mauvais traitement d'un professeur et ils ont commencé à faire des manifestations, ils se sont barricadés dans les locaux de l'université et à un moment donné, il y a un feu qui a pris puis de l'extérieur, il y a des gens qui criaient burn, là, je le dirais pas le mot, là, mais burn de mot en haine. Puis ça, les Québécois ne savent pas ça. Puis ça, c'est arrivé dans les années 60 là, à Montréal. Fait que je pense que des fois, on manque un peu de... Puis aussi, on a résumé cette histoire-là à ce mot-là qui avait été prononcé par le professeur et on avait évacué là, de la pétition des étudiants en question tous les autres griefs qu'il y avait par rapport à ce professeur-là c'était pas la seule chose, puis nous, on a résumé ça à un mot qu'on peut pas dire, puis on a aussi amalgamé ça avec d'autres histoires. Alors là, on a l'impression que la prof de Concordia a été renvoyée, alors que c'est pas ça du tout l'histoire. Là, il y a eu une pétition, puis bon, ça a été dûment noté là, par la direction, mais il y a pas eu, après ça, il y a eu une discussion, mais il n'y a pas eu la personne qui a été renvoyée. Puis, donc, tu sais, des fois, je pense qu'on se fait des peurs aussi quand on... Puis je comprends, là, parce que c'est super sensible. C'est là, ça touche à la liberté d'expression. Puis évidemment, on ne veut pas perdre la liberté d'expression. C'est quelque chose qui nous est cher. Puis d'ailleurs, on le voit très bien, là... avec, par exemple, l'affaire Mike Ward, tu sais, on voit que c'est un sujet qui est excessivement pris au sérieux, qui est pas pris à la légère, puis on a été devant les tribunaux trois fois, là, pour confirmer une décision, puis réaliser que collectivement, on n'est peut-être pas, on n'est pas à l'aise avec la censure, même si on n'est pas à l'aise non plus avec la blague que Mike Ward a fait. Fait que, tu sais, là, je m'égare, mais je trouve que
on
veut être dans le noir ou le blanc, puis je pense qu'on peut être à la fois Mike Ward et Jérémy Gabriel, on peut être à la fois, on peut être dans les nuances, c'est possible.
Je suis d'accord et je suis persuadé parce qu'il y avait des gens qui avaient peut-être des a priori sur toi, de ce que je lisais des textos juste avant l'entrevue, qui vont se rendre compte que t'es pas mal plus nuancé. Ou comme dirait Mathieu Boccoté, t'es une woke parlable, je dis tout.
Je suis une woke parlable, c'est un badge d'honneur que j'aime bien, je vais le garder assez longtemps.
Un jour, c'est dans ma bucket list, je vais te recevoir en studio avec Mathieu Boccoté puis on va faire un beau débat en onde, c'est garanti.
Ah, ça fera plaisir.
Quand il reviendra de France, là, il trippe des bulles en France. Bon, salut Judith, c'était un plaisir de jaser.
C'était un plaisir,
Jean-Simon. Salut, à bientôt. Judith Lussier, autrice, chroniqueuse, journaliste, militante, autrice d'Annuler, réflexion sur la cancel culture. Qu'en avez-vous pensé? Hâte de lire vos commentaires au 25 22 6.